Bonjour à tous, c'est le début de votre nouvelle émission sur les ondes de Radio Galaxie qui s'intitule La Bougeotte. Cette émission qui donne un nouveau regard sur nos régions françaises vous est présentée par Christian Cayol. Bonjour Christian.
Bonjour.
Alors La Bougeotte, c'est une émission qui sera en diffusion sur les ondes de Radio Galaxie le premier mardi à 9h30, deuxième jeudi 14h30, troisième samedi 17h30 et quatrième dimanche 7h. Christian, peux-tu nous présenter l'esprit de cette nouvelle émission ?
Alors, l'idée, c'est de faire partager ma bougeotte, c'est-à-dire les voyages que je fais en France, uniquement en France, au sujet desquels je ramène des images. Et donc, c'est de faire partager ce que j'ai vécu, les images que vous pourrez retrouver sur un site, les faire partager à tous ceux qui m'écoutent, à ceux qui iront les regarder, et aussi donner des envies de voyage à ceux qui peuvent pas y aller ou à ceux qui leur donneront une idée d'aller à tel ou tel endroit.
Quand tu dis voyage, c'est-à-dire tu vas sur une région, donc tu fais découvrir une région, mais avec un fil conducteur comme le VTT, non ?
Tout à fait, le fil conducteur, c'est le VTT. Depuis des années, je pratique ce sport. Au début, je ne faisais que des images de VTT, puis peu à peu, j'ai intégré le tourisme et maintenant, j'en suis pratiquement à faire 60% d'images de tourisme dans mes vidéos et 40% de VTT. Mais il y a toujours, malgré tout, l'idée d'une rando VTT à laquelle je participe et je mêle ces deux activités, le VTT et le tourisme.
Aujourd'hui, quelle région tu comptes nous faire découvrir ?
Alors, aujourd'hui, je vous emmène dans les Vosges et plus particulièrement les Vosges du Nord. Alors, on va en parler. Je n'ai pas oublié la plaine d'Alsace, je n'ai pas oublié les jolis villages, je n'ai pas oublié les vignobles. C'est un endroit par lequel je suis déjà passé, mais je voulais surtout faire des images de rochers. Alors ces fameux grès des Vosges, que l'on dit les grès roses, mais qui peuvent aller du crème au rose, du rose au violet. Et donc je voulais faire des images de ça, et aussi de tous ces châteaux plus ou moins en ruine qui dominent ces barres rocheuses. Ce que je voulais en priorité, c'était montrer ça. Bien sûr, on parlera d'autres sites plus traditionnels, mais ce que je voulais vraiment faire, c'était ça, les barres de grès et les châteaux par-dessus.
D'accord. Mais alors, avant d'attaquer notre émission, j'aimerais quand même que tu puisses nous présenter ton parcours de vie sportif et comment tu es arrivé jusqu'en fait à créer une émission sur Radio Galaxie.
Alors, le parcours de vie sportif, c'est très simple. Je suis sportif depuis toujours. Depuis enfant, commençant par le foot et puis par la suite des activités de plein air, avec en particulier la spéléo et la montagne. La spéléo, c'est l'activité que j'ai poussée, que j'ai le plus approfondie et où j'ai pris le plus de plaisir et de satisfaction en faisant beaucoup de premières, en participant à des secours, enfin, j'en passe. Un peu de montagne, j'ai dû faire environ 60% des sommets de plus de 3000 dans les Pyrénées, quelques voies. Le Mont Blanc plusieurs fois, le Cervin, et puis un sommet dans le Pamir soviétique à plus de 7000, le pic Lénine, 7134 mètres. C'est le Pamir, c'est l'extrémité occidentale de l'Himalaya, à la limite de la Chine. Et à la suite de problèmes de santé, je me suis tourné vers le VTT pour garder le contact avec la nature, que j'aime beaucoup. Ensuite, après avoir fait quelques compétitions à petit niveau, il fallait me remotiver et ça a été la vidéo qui m'a remotivé. J'ai commencé par filmer les copains, puis les randonnées du coin. Peu à peu, j'ai eu des visites sur mon site, j'ai filmé les plus grandes manifestations vététistes en France. Et puis, je me suis dit, le VTT, c'est pas suffisant, il fallait apporter autre chose. Donc j'ai commencé à faire des images de tourisme, ce que j'ai peu à peu mêlé dans mes images de VTT. Voilà. C'est une activité qui m'occupe beaucoup.
Ouais, parce que tu fais des vidéos donc que tu mets sur un site.
Les vidéos sont sur mon site qui s'appelle Rando VTT Vidéo. Si vous tapez sur Google, ça va sortir, Rando VTT Vidéo. J'en fais environ une par mois, sur toute l'année.
C'est énorme.
Voilà. Ça demande du boulot, oui, c'est du boulot.
Ça demande quoi ? Une semaine de préparation avant, une semaine pour faire la vidéo et une semaine création de la vidéo par la suite ?
Ouais, ça demande un emploi à mi-temps, oui. Complètement, oui. Et il y a environ une semaine, effectivement, de préparation, de recherche pour ne pas aller à l'improviste, au hasard, pour filmer tel ou tel site. ensuite faire la vidéo, la mise en ligne, et puis préparer une émission comme celle-ci.
Tu fais des vidéos que tu mets en ligne, mais maintenant pour Radio Galaxie, tu nous fais découvrir donc...
Je vais essayer de vous attirer vers ce qui m'a poussé à bouger et vous donner envie de partir.
Alors, il est grand temps, allez, nous partons voyager avec toi. Alors, dis-nous la région que tu nous fais découvrir.
Et alors, la région, c'est les Vosges, et plus précisément les Vosges du Nord. Alors, l'idée de ma vidéo, avant d'y aller, j'ai déjà fait deux vidéos sur les Vosges. Mais là, c'était franchement, j'avais envie de mêler ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire Ségret Rose, au milieu de forêts, d'immenses forêts, d'épicéas ou de mélèzes, beaucoup d'épicéas, et ce mélange rose et vert. Et puis ces barres de rochers qui émergent comme des bateaux dans un océan, qui sont érodés, qui sont corrodés, travaillés de partout, me fascinent. Voilà. Ce sont des barres bien souvent qu'il faut trouver, qu'il faut chercher, c'est pas facile. Certaines sont à plus d'une heure de marche, d'autres plus près, mais pas toujours plus facile à trouver. Ce sont des barres bien souvent qui font dans les 30 mètres de haut et qui peuvent faire plusieurs centaines de mètres, même plusieurs kilomètres de long, dont une en particulier. Je pense à un rocher, le rocher vers lequel je suis allé en priorité. Alors, excusez-moi pour la prononciation, c'est Aschlossfelden. Voilà.
D'accord.
C'est si on traduit, ça c'est pas l'accent du midi. Si on traduit, je crois que ça veut dire le vieux château en ruine, quelque chose comme ça. Ouais. Alors, souvent, ces barres de rochers se sont dominées par des châteaux troglodytes qui sont comme sertis dans la roche, qui sont avec des escaliers aériens taillés, des promontoires, des tours bâties, des puits creusés. Ça, vous le verrez sur la vidéo, ça. Alors, donc, il y a ce rocher, ce sont des couleurs sublimes. Et alors, à côté de ça, il y a un rocher plus petit, juste à côté de celui-ci. Alors là, on a passé la frontière allemande. Hein. On est parti à pied de France. Ouais. On a passé la frontière, on a passé les bornes frontières. Alors, c'est très marrant de passer proche de ces grosses bornes avec France et Deutschland. Dans des forêts qui sont très propres, d'ailleurs. Je pense que ça vient du fait que les épicéas empêchent la végétation de pousser dessous. Ouais. Elles sont très propres, les chemins sont bien entretenus. Il y a une voie romaine. Et donc, à côté de cette voie romaine, il y a ce qu'on appelle le temple de Diane. C'est un rocher creux où on devine des gravures romaines. Je pense que c'était un temple dédié à la déesse Diane et qui a été certainement bâti par un important gouverneur de la région. Et en faisant la voie romaine, il a fait le temple de la grotte de Diane juste à côté. Alors, des rochers, il y en a beaucoup d'autres. Il y a le rocher de la Bande Noire. Alors là aussi, Horsenstall, excusez l'accent, je croyais que bande noire, ça voulait dire parce qu'il y avait une bande noire au centre. Non, c'est pas ça. La bande noire, c'était une bande de contrebandiers ou de brigands qui vivaient là. Souvent, c'était des soldats de la grande armée napoléonienne qui faisaient partie de cette bande noire. Alors, ils faisaient la contrebande avec la Prusse toute proche, notamment de tabac et d'alcool, qu'ils revendaient à la garnison proche. Là, une petite anecdote. Le jour où je suis allé à ce rocher, il y avait un pépé assis sur un banc, plus ou moins handicapé, avec lequel on a échangé et qui m'a expliqué la bande noire, ce que c'était. Et qui nous a expliqué aussi que la grotte qu'on appelle la grotte des amoureux, qui est juste à côté, en alsacien, c'est pas aussi poétique que ça. C'était pas la grotte des amoureux. Tu vois, vous comprenez ce que je veux dire. Proche de la bande noire, ça devait attirer les femmes du voisinage pour un commerce qui n'était pas de la contrebande. Voilà. Et cette personne aussi, nous avons parlé. On a parlé des difficultés qu'ils ont eues dans cette zone où ils sont passés en 70 ans. Certains ont changé 5 fois de nationalité. Avant 1870, ils étaient français, ils sont devenus allemands, ils sont redevenus français, et allemands, français, 5 fois de suite en 70 ans. Et pour certains, en 40, quand cette partie a été annexée par l'Allemagne, sont devenus allemands et ont dû être incorporés dans l'armée allemande. Donc voilà, j'ai fait une parenthèse.
Et ce rocher, pour y accéder, c'est facile ?
Alors là, je vous conseille de faire des recherches un petit peu, mais je vous conseille d'acheter une carte d'état-major parce que ces forêts sont très denses et c'est assez simple de pas se retrouver.
D'accord.
Donc, il y a beaucoup de balisages. Ou alors, passez aux offices du tourisme, prenez la symbolique du balisage, parce que c'est des balisages, soit c'est carré, soit c'est rond. Il y a des couleurs, carré bleu, carré vert. Il y a des couleurs à suivre. Si on n'a pas la symbolique, on ne peut pas se retrouver. C'est très bien balisé, par contre. Il y a beaucoup de pancartes avec le nom des vers où on va. Mais ce sont des noms à consonance alsacienne. Moi, le nom, quand je me dis, bon, je vais à tel endroit, 100 mètres plus loin, je ne sais plus quel nom j'ai retenu. Je ne le sais plus. Donc, il faut un papier, se le noter. Donc, il vaut mieux se renseigner un petit peu aux offices de tourisme. Alors, des rochers, il y en a beaucoup d'autres. Alors, les châteaux qui sont au-dessus. Alors, moi, sur la vidéo, j'ai évité les châteaux traditionnellement où les gens vont, qui font du tourisme. Le Haut-Bar, le Haut-Königsberg, Bourg, pardon. Celles-là, je les ai évitées. Ils sont intégrés dans une vidéo précédente que j'ai faite en 2012 et qui s'appelle En rouge et vert, où j'ai déjà fait les images de ces châteaux. Je me suis tourné plutôt vers des châteaux moins fréquentés, qu'il faut chercher dans la forêt. Et il faut aussi avoir fait une recherche, avoir des indications, et qui sont souvent un peu plus aériens et réservés à des personnes qui ont le pied un peu plus sûr et qui n'ont pas trop le vertige. Il n'y a pas de difficulté. Mais il faut quand même prendre quelques précautions.
Il faut rappeler aussi que la particularité de tes images, c'est que tu travailles aussi avec un drone. Donc il y a beaucoup de photos qui sont prises de haut et ça donne quand même une autre dimension qu'une photo prise au pied du château.
Alors,
par exemple.
Le drone, oui, je l'utilise quand je peux. Là, ce n'est pas le cas parce qu'on est en forêt. Donc là, je ne me suis pas amusé à faire voler le drone. Mais effectivement, j'utilise... Dès que je peux, dès que le temps le permet ou que le site le permet aussi, je fais des images avec un drone. Ouais.
Voilà, ça, il fallait le préciser.
Sujet parenthèse, ouais. Pour rassurer les auditeurs, l'utilisation du drone m'a imposé de passer le brevet qui est en fait le permis pilote du ULM. Pas très simple.
Un diplôme qui est récent, en sachant que toi, tu pratiques le drone depuis ses débuts en fait.
Oui. Alors, hormis mon coup de cœur sur ces barres de rochers gris, vous avez compris, sur ces châteaux, qui, je dois dire, sont aussi de la même couleur que les rochers. Hein. Sont pareils, sont dans les rouges, dans les roses. Hein. Mais on ne peut pas aller là-bas en oubliant complètement, par exemple, le Mont-Saint-Odile. Saint-Odile, c'est la patronne de l'Alsace. On ne peut pas, il faut y aller. En plus, c'est extraordinaire. Il y a un point de vue du Mont-Saint-Odile, du monastère, sur toute la plaine de l'Alsace, et puis le monastère est beau. Alors Saint-Odile, il y a toute une légende. Elle est née aveugle, elle a été reniée par son père. Alors là, on est dans les années, on est en 660 ou 700 quelque chose. Donc reniée par son père, c'était un noble, un seigneur de l'époque. Elle a été placée par sa mère dans un monastère à Baume-les-Dames, et par miracle, elle a retrouvé la vue. Donc son père, pour se faire pardonner, lui a donné un château qu'elle a transformé en couvent. Puis peu à peu, elle a bâti une abbaye qui est devenue lieu de pèlerinage. Alors sur ces entrefaites, elle redonne la vue à un aveugle en lui passant de l'eau d'une source miraculeuse qu'elle avait trouvée. L'aveugle retrouve la vue. Alors tout ça, c'est la légende. Mais c'est la légende qui entretient maintenant un pèlerinage, notamment pour toutes les personnes qui ont des problèmes de vue, des problèmes oculaires, au Mont-Saint-Odile. Et le Mont-Saint-Odile aussi, bon, ben c'est un monastère traditionnel d'Alsace. Alors ça, il faut y aller. Il faut absolument y aller. Le matin de bonne heure, si vous ne voulez pas chercher une place pour vous garer, parce que ce n'est pas bien grand. Et il y a beaucoup de monde. Mmh. Oui, et puis en plus, il y a des périodes de l'année de pèlerinage où là, il faut y aller que si on a envie de le faire, le pèlerinage. Sinon, il faut éviter. Okay. Alors ensuite, il y a un autre site qu'il faut voir, c'est le rocher de Dabo. Alors Dabo, c'est un petit village. Le rocher de Dabo, il se voit de partout. Il est posé sur une colline. C'est un rocher de grès rose qui a une forme bizarre. C'est une forme d'enclume. Alors, les dimensions du rocher, c'est à peu près 30 mètres de haut, 80 de long, 20 mètres de large. Et il est plat. Le dessus est tout plat. Au centre de ce rocher est élevée une chapelle. Une chapelle qui a été bâtie en mémoire d'un pape, Saint Léon VIII-IX, et qui était un enfant du pays, de Dabo. Donc en mémoire du pape, les habitants, elle n'est pas vieille la chapelle, elle a peut-être 200 ans, ont élevé cette chapelle, qui est maintenant un lieu de pèlerinage, et puis un point de vue à 360 degrés. C'est très beau, d'accord. Ça aussi. Alors ça, ce sont des choses qu'il faut absolument voir. Après, il y a beaucoup de choses. Par exemple, le temple du Donon. Alors, le Donon, c'est des collines à 1000 mètres environ d'altitude. Et loin de tout, une heure de marche, il y a un temple romain. Mais vous, qu'est-ce qu'il fait là, ce temple romain? Vous dites, ouais, bon, il faut y aller voir. En plus, il émerge du sommet, il émerge de la végétation. Et ça fait des photos, de très belles photos. Alors, ce temple, c'était un temple celte, élevé pour prier un dieu celte, Teutatis, qui est au 1er siècle devenu Mercure. Les Gallo-Romains ont, à cette époque-là, élevé un temple qui était de grande dimension. Il a été pillé, brûlé, saccagé au 6e siècle. Les ruines ont été retrouvées au 18e siècle. Et en 1800 et quelques, une souscription a été ouverte pour rebâtir une partie de ce temple. Et il existe maintenant un temple à 12 colonnes qui est improbable au milieu de la végétation, loin de tout. C'est improbable, on se demande si c'est possible. Il est exactement à Grandfontaine, ça s'appelle, le village proche. Au parking, vous trouverez des voitures. Et après, il y a un chemin, c'est évident. Pour ceux que ça peut intéresser, je suis monté en vélo. D'accord. Alors, mais je suis en mode...
Faut être malin. Hein. Je me méfie de ça quand j'entends ça.
Faut être malin parce qu'au début, vous vous dites, ah, je vais monter en vélo parce que ça roule bien, effectivement, ça roule bien sur 500 mètres. Puis peu à peu, le chemin devient très cassant et impraticable. Mais j'ai croisé une route qui semblait monter. Et je suis parti sans carte, sans rien, en suivant cette petite route forestière qui est montée à une antenne radio. Donc je suis arrivé avec le goudron à l'antenne radio. Et de l'antenne radio, il y a un petit chemin qui m'a amené à un col. Et j'étais à 500 mètres du sommet. D'accord. Donc voilà, j'ai posé le vélo et j'ai fait les 500 derniers mètres à pied. Ça, j'ai quand même gagné beaucoup de temps.
J'imagine, oui.
Et surtout à la descente aussi, beaucoup de temps. Oui, oui, oui. Alors à part ça, après on ne peut pas, c'est impossible. Aller dans les Vosges, aller en Alsace, c'est impossible d'oublier notre passé récent depuis les années 70. Quand vous y êtes là-bas, vous tombez sur le Struthof, l'ancien camp de concentration. Vous tombez là-dessus. Vous tombez sur des stèles, sur des cimetières. Vous tombez sur des choses qui vous rappellent qu'il y a eu un passé proche qu'on ne peut pas oublier. Alors, par exemple, moi je suis tombé par hasard complètement sur le mémorial de Reichstoffen. Oh, j'avais oublié Reichstoffen, j'avais peut-être entendu parler, mais j'avais complètement oublié. Un mois avant la défaite de Sedan, en 1870, il y a eu une bataille terrible à Reichstoffen où il y a eu 20 000 morts et 10 000 prisonniers français. C'est les cuirassés qui ont chargé par deux fois, ils ont été décimés par les Prussiens. Et un mois plus tard, la France a perdu la guerre, a signé un armistice, enfin a signé, après la bataille de Sedan. Et à ce moment-là, nous avons perdu l'Alsace et la Moselle, sauf Belfort, une grande partie. Voilà, alors ça, bon, on passe à côté, on peut pas l'ignorer. De même que je suis allé voir la ligne Maginot. Tout le monde a entendu parler de la ligne Maginot, mais tout le monde n'est pas allé la voir. Alors j'ai vu un fort qui s'appelle le fort du Four à Chaux, parce qu'on donnait le nom de chaque bastion. Le nom qui était le plus proche de ce qui se passait. Là, il y avait un four à chaud. Donc, le four à chaud. Le fort du four à chaud, c'est à peu près 4,5 km de galerie. C'est colossal. 26 hectares. Il y a 3 postes d'artillerie. Ça représentait 600 hommes sous terre. Voilà. Alors, comment vivaient ces hommes? Ces hommes vivaient un tiers de leur temps dans le fort, un tiers dans les postes d'observation, et un tiers du temps, ils étaient en repos. Chez eux ou en garnison. Et donc là, le four, il est comme à l'époque. C'est-à-dire qu'on voit la vie des soldats qui, tout avait été fait pour leur confort malgré tout, parce que, exemple, il y avait des douches chaudes à cette époque-là, beaucoup des gens ne se touchaient pas. Il y avait des douches chaudes, une salle d'opération, un cabinet de dentiste. Enfin, c'était relativement confortable, voilà. Après, on se demande à quoi ça sert. Alors, il y avait une guide qui nous a gardé 2 heures et nous expliquait tout un tas de choses. Nous faire fonctionner la tourelle, qui fonctionne encore, parce que le fort était complètement fermé. Les tourelles étaient fermées et il fallait faire marcher un moteur ou actionner une manivelle. Un homme faisait tourner une tourelle de plusieurs tonnes, peut-être pas dizaines de tonnes, mais plusieurs tonnes. la tourelle sortait de terre avec l'artillerie pour tirer en fonction des coordonnées données par radio, ou par téléphone plutôt, aux observateurs dans les postes d'observation dans la forêt aux alentours. Voilà, voilà comment ça fonctionnait. D'accord. Et donc la guide, en résumé, elle nous a dit, quand on pense l'Europe, à quoi ça sert et tout ça. Mais pour elle, qui elle l'a pas vécu, mais bon, elle est bien au courant, bien sensible à tous ces problèmes de guerre et tout ça. Malgré tout, lorsque le général de Gaulle et le chancelier Adenauer ont bâti l'Europe, depuis, on a 70 ans de paix. Et c'est quelque chose, quand vous êtes dans le four à chaud avec quelqu'un qui vous explique la vie des soldats, et qu'on vous, fait ce, qu'on vous explique ça, je vous promets que ça vous touche. C'est, ça. C'est concret. Ouais. Alors ça, on ne peut pas l'ignorer. C'est un tourisme particulier. Ce n'est pas ce que je préfère. Je suis plutôt tourné vers la nature. Mais c'est quelque chose où, quand même, où on est sensible à ça.
Et ça fait partie de notre histoire.
Oui, 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 ça nous touche de près. Ouais. Ouais. Oui, oui. Ouais. Alors, quoi d'autre ? Plein de choses. Par exemple, à Grauftal, c'est le nom d'un village, il y a ce qu'on appelle les maisons des rochers. Alors, c'est une falaise, le village est en bas, et à 20 mètres de hauteur, il y a trois maisons de couleur bleue qui sont blotties contre les rochers, c'est-à-dire que le rocher fait un surplomb, ils ont bâti des murs, et ça fait des habitations. Et ces maisons sont conservées par une association qui entretient et qui perpétue. On est plongé dans ces maisons, on est plongé dans la vie des gens de l'époque, parce que tout est resté, et c'est formidable. Et alors les maisons, ces couleurs de maisons, ces couleurs bleues, ça pouvait avoir plusieurs significations. Soit c'était pour distinguer les religions, bleu ou rouge suivant les religions, catholiques ou protestants. Ça pouvait aussi correspondre au métier. Par exemple, le rouge, c'était réservé au métier du fer. La couleur jaune, c'était les boulangers. Le vert, le cuir. Et le bleu, c'était le bois. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est aussi... c'est à voir, c'est très beau. Alors, une petite anecdote. Si vous passez par là, vous allez dans cette région, à Barenthal, Saint-Patelin, il y a un restaurant qui s'appelle l'Arbre Vert. Vous ne pouvez pas le rater. Je sais quand même, comme on m'a dit, que le restaurateur faisait de la très bonne cuisine. Ouais. Mais quand vous allez passer devant, il y a 2000 fleurs sur sa terrasse, sur sa façade, sur la terrasse. La terrasse, on ne peut pas y aller. On ne peut pas aller boire une bière sur la terrasse. On ne sait pas où se mettre. Tout est envahi par les fleurs. Alors ça, c'est déjà très surprenant. Mais le plus surprenant, c'est quand vous rentrez à l'intérieur. Parce que c'est le facteur cheval du plaquage au mur et du plaquage au plafond. Dans un style baroque rococo, des motifs en plâtre qu'il a fait. Mais alors, c'est exubérant. Il y en a partout. C'est surchargé. Il ne faut pas avoir peur. Mais il faut le voir. Il faut le voir. Et il vous fera visiter, comme il a fait avec nous. Il y en a partout. Il y en a à l'étage, il y en a dans les couloirs, dans l'escalier, partout. Des plaquages blancs, peints en blanc, du plâtre, qui fabrique les motifs et il les colle. Ça aussi, c'est une petite anecdote, mais bon. Un petit clin d'œil, oui. Alors, bon, d'autres choses, bien sûr. Des cascades, c'est pas la cascade de Gavarnie, mais vous en trouverez. Plus au sud, la cascade du Tendon, la cascade de Charlemagne. Bon, des châteaux, vous en trouverez nombreux aussi. Et puis, vous aurez l'occasion aussi de passer par des jardins. Alors, nous, on en a vu trois. Le jardin d'altitude à côté du col de la Schlutz. Ça, c'est dans le sud des Vosges, mais bon, c'est sur votre chemin si vous y allez, à côté du Honeck. Le jardin de la paix à Beach, qui est très original. Mais dans les jardins, mon coup de cœur, c'est le jardin de Berchigrange, à Granges-sur-Volonne. Là, on est dans le sud, on est un petit peu, on n'est pas très loin de Xonrup, qui est très fleuri et qui est de toute beauté. Quelque chose aussi à voir. Alors là, j'ai fait voler le drone. C'est un champ de roche à Barbé-Sérou. C'est une rivière de roche granitique. C'est original. En pleine forêt, il y a une trouée, 400 mètres sur 40. Mais quand je parle de roche, c'est pas les galets de la Garonne. C'est des rochers de plusieurs tonnes qui ont été transportés par un glacier il y a 50 000 ans et qui a disparu. Donc les roches sont posées là, en pleine forêt. D'accord. Et il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de végétation, il n'y a rien, il n'y a que des roches. Et là, j'ai fait voler le drone parce que, bon, en aérien, c'est... quand on est à pied, on ne se rend pas compte de la dimension.
Ouais, ça, on le retrouve aussi sur donc, ta vidéo. Oui. Vidéo qui s'intitule comment ?
Alors, le nom de la vidéo, c'est au gré des Vosges, mais moi je prononce gré, mais en fait c'est gré, au gré des Vosges, parce que j'ai fait un petit jeu de mots entre au gré de l'inspiration et les grès des Vosges.
D'accord.
Voilà, la vidéo c'est ça. Je rappelle mon site, Rando VTT Vidéo, vous ne pouvez pas la manquer.
D'accord.
Je voudrais parler d'une chose, c'est le dernier lynx des Vosges qui a disparu. Voilà. Alors ce lynx était baptisé Van Gogh parce qu'il avait une oreille abîmée. Et les lynx qui ont été réintroduits il y a quelques années ont tous disparu, souvent par des accidents de voiture, et dans une indifférence générale. Alors voilà, je voulais quand même faire un petit quelque chose là-dessus, dire qu'un mot, parce que je trouve que dans cette immensité de forêt, les lynx ont leur place. Et à la fin de ma vidéo, comme toutes les vidéos, sont terminées par une aquarelle de ma femme, Nadine, je la cite. Elle a fait une aquarelle du lynx que je trouve très belle, que vous verrez en fin de vidéo.
D'ailleurs, un clin d'œil par rapport à Nadine, qui expose aussi régulièrement
dans la région.
Dans la région Midi-Pyrénées.
Oui, aquarelliste, oui.
Voilà, et qu'on peut retrouver.
Entre 50 et 100 aquarelles sont sur mon site en petite dimension. Toutes mes vidéos se terminent par l'aquarelle. Pour terminer, ce que je voudrais dire, et c'est valable pour chaque fois, à l'heure où on cherche à consommer français, ça se comprend, et à réduire les frais de transport, à réduire ces choses-là. Certains vont chercher bien loin un tourisme que l'on pourrait, pas le même, mais alors qu'ils ne connaissent pas le dixième de ce qu'on peut trouver en France. La France est très belle, et ça fait, moi je suis à peu près à la 50e ou 60e vidéo différente, sur différents coins de France. Je me régale chaque fois autant, et je trouve toujours des choses surprenantes, intéressantes, et c'est notre passé, et c'est notre patrimoine. Alors moi je dis, bougez, mais bougez en France.
Ouais, bougez local, c'est vrai qu'on peut le redire, la France, on a cet avantage, c'est que d'une région à une autre, voire d'une vallée à une autre, c'est complètement différent. C'est jamais le même décor.
Tout à fait.
Ouais. Ni jamais la même histoire, souvent.
Oui. Ça change, des fois on fait 50 km, on n'a plus du tout le même relief, on n'a plus du tout le même... Oui. C'est très riche.
L'émission La Bougeotte donc arrive à terme. Donc merci Christian Cayol. Peux-tu rappeler rapidement ton site pour les auditeurs qui veulent découvrir donc la France au travers de tes films?
Alors le site randovttvideo.free.fr. Tapez sur Google randovttvideo. Merci à ceux qui ont écouté. Merci Radio Galaxy. Et je vous dis bougez en France. À la prochaine.
Voilà, merci Christian, merci chers auditeurs pour votre écoute. Et je rappelle que cette émission, donc, qui s'intitule La Bougeotte, sera en diffusion sur les ondes de Radio Galaxy le premier mardi 9h30, deuxième jeudi 14h30, troisième samedi 17h30 et quatrième dimanche 7h. Bonne journée à tous.
Au revoir.